accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, une émission très politique aujourd'hui dans Accent d'Europe. La période paraît propice au renouveau. Le Brexit au Royaume-Uni a redonné soif d'indépendance aux Écossais. L'épidémie de Covid, le confinement et la suprématie des réseaux sociaux ont fait émerger de nouvelles figures, en Irlande par exemple, ou encore en Pologne, tandis que l'Allemagne s'apprête à tourner la page Angela Merkel. La politique dans l'œil de l'historien également, à retrouver aujourd'hui avec Nicolas Offenstadt, qui nous plonge dans les remous de l'Allemagne des années 1918-1919 et du spartakisme, mouvement d'extrême gauche révolutionnaire. Mais d'abord, direction le Royaume-Uni. Le 6 mai prochain, les électeurs écossais éliront les membres du Parlement de Holyrood. Les indépendantistes espèrent obtenir la majorité absolue et préparer la voie pour un référendum pour l'indépendance. Un camp indépendantiste qui aborde le scrutin très divisé. Le SNP et sa chef de file Nicola Sturgeon sont en tête des intentions de vote, mais Alex Salmond, son prédécesseur, figure de l'indépendance, a jeté un pavé dans la mare en annonçant la création d'un nouveau parti, ALBA. On décrypte ça avec notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Ils étaient inséparables, Nicola Sturgeon et Alex Salmond. Aujourd'hui, c'est la guerre.
Oui, au point qu'Alex Salmond, qui a été Premier ministre avec l'étiquette SNP de 2007 à 2014, a créé un parti, ALBA, pour rivaliser avec son ancienne maison et son ancienne protégée, Nicola Sturgeon. Les raisons sont vraiment très compliquées. Alex Salmond était accusé d'agression sexuelle et on reprochait à Nicola Sturgeon d'avoir voulu enterrer l'affaire pour protéger Salmond avant de la soupçonner de vouloir le faire jeter en prison sans preuve. Il a été blanchi par la justice, mais la Première ministre d'Écosse dit qu'elle a toujours des doutes sur son comportement passé. Bref, disons que ces deux ne s'entendent plus vraiment sur le plan personnel, mais sur le plan politique non plus, comme l'a dit Alex Salmond lors d'une conférence de presse.
Le SNP est trop timide au sujet de l'indépendance. Nicolas suggère qu'un référendum pourrait avoir lieu après 2023, quand la pandémie sera derrière nous. Les Verts, l'autre parti pro-indépendance, parlent même de 2026. Nous pensons qu'un Parlement écossais avec une super majorité indépendantiste devra commencer les négociations avec Westminster dès la première semaine de la rentrée parlementaire.
Pousser l'idée indépendantiste plus fort que le SNP, c'est le cœur du projet d'ALBA, mais Alex Salmond promet aussi par exemple une politique sociale qu'il dit plus ambitieuse.
Et c'est vraiment la question de l'indépendance qui est cruciale. S'il est élu, Alex Salmond aura une tribune pour contester l'autorité de Nicola Sturgeon qu'il estime ne pas être à la hauteur des enjeux.
Oui, mais Alex Salmond ne veut pas redevenir Premier ministre. ALBA ne prétend pas, n'essaie même pas d'obtenir une majorité. Le parti ne présente que 32 candidats et uniquement dans les circonscriptions régionales. C'est là que ça devient compliqué parce qu'il faut bien comprendre le système électoral écossais. Les 129 députés du Parlement sont élus pour une partie au suffrage universel direct, dans des circonscriptions, les autres dans des régions électorales, avec un scrutin de liste, une sorte de panachage.
Notre but pour ces élections est de faire élire des députés dans chacune des 8 régions d'Écosse. Nous voulons que ces élus participent de ce que nous appelons une super majorité pour l'indépendance. Avec la force du SNP dans les circonscriptions et celle des Verts dans les régions, nous pourrions avoir plus qu'une simple majorité pro-indépendance, 80, 90 ou plus encore de députés écossais indépendantistes sur un total de 129 élus à Holyrood.
Et ça, c'est important pour les indépendantistes parce que pour l'instant, Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, celui qui normalement doit accepter la tenue d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, a toujours dit qu'il refuserait. Il refuserait principalement car il y a déjà eu un référendum en 2014 qui a débouché sur un non à 55%. Alors cette super majorité pourrait faire la différence, croit Alex Salmond.
Boris Johnson veut faire croire que ce débat constitutionnel est parti contre parti, Premier ministre britannique contre Premier ministre d'Écosse, parti conservateur contre SNP. Si ALBA rencontre le succès, fait partie de cette super majorité, alors le débat opposera un Premier ministre conservateur contre une large majorité de députés écossais indépendantistes et représentant le peuple écossais. Et un Premier ministre contre la nation écossaise, ce n'est pas la même chose qu'un parti opposé à un autre parti.
Mais alors Marie, ALBA a-t-il des chances de remporter son pari ?
La question tout d'abord est de savoir si Alex Almond ne risque pas d'affaiblir les indépendantistes du SNP avec son nouveau parti. Sans doute un peu, mais il faut bien noter que les deux partis ne font pas vraiment campagne sur la même carte électorale. Le SNP est bien implanté dans les circonscriptions. Alba, de son côté, on l'a dit, ne présente pas de candidat dans les circonscriptions. Ce n'est donc pas là que le nouveau parti risque de faire de l'ombre au SNP. Mais politiquement, l'image n'est guère heureuse pour les indépendantistes, deux partis en compétition avec leurs deux chefs à couteau tiré. Si l'on regarde maintenant du côté des sondages d'intention de vote, d'après une enquête Comres de la mi-avril, le SNP est en recul et pourrait cette année encore ne pas avoir de majorité absolue avec 46% des intentions de vote dans les circonscriptions. Il reste cependant loin devant les conservateurs à 25%. Du côté des régions écossaises, le SNP, après un échec relatif aux dernières élections, affiche 38% d'intention de vote. Alba n'est qu'à 1%. Le pari d'Alex Almond paraît donc loin d'être gagné pour le moment et tout le camp indépendantiste joue gros sur ces élections.
Marie Billon, correspondante d'Accent d'Europe au Royaume-Uni. Le confinement et les réseaux sociaux ont permis l'émergence de nouvelles figures politiques. Ces derniers mois, en Irlande, le complotisme a un visage à mi-chemin entre recherche scientifique et politique, celui de Dolores Cahill. Elle est docteure dans le domaine de la protéine. Emmeline Vin, cette professeure d'université, est devenue la figure de proue des Irlandais anti-confinement.
Pas de masque, longs cheveux argentés sur un manteau en laine, Dolores Cahill est acclamée comme une rockstar au rassemblement anti-confinement de la Saint-Patrick à Dublin. Cette femme est un génie, s'extasie l'une des manifestantes. Elle dit la vérité et elle le prouve. Le parcours de la scientifique impressionne. Chercheuse pendant 7 ans au sein du prestigieux institut berlinois Max Planck, enseignante à la faculté de médecine de l'University College de Dublin, vice-présidente d'un comité européen sur les médecines novatrices et citée près de 6000 fois par ses pairs. Alors, ce 17 mars, quand elle monte sur le podium, elle convainc la foule. Le port du masque prive le cerveau d'oxygène, les enfants n'atteindront jamais leur plein potentiel intellectuel et seront plus faciles à manipuler par les puissants, et le vaccin rend les femmes stériles. Des propos déjà tenus depuis le début de la pandémie sur les réseaux sociaux de Dolores Cahill, qui se prétend censurée par les médias traditionnels, mais ne donne suite à aucune demande d'interview. La généticienne se double d'une politicienne, puisqu'elle a mené le parti irlandais pour la liberté d'extrême droite lors des dernières élections en février 2020 sans succès. Depuis cette manifestation de la mi-mars, le vent a tourné pour cette native de Tipperary. Le parti lui a demandé de démissionner car elle était devenue trop occupée pour se consacrer aux tâches partisanes. Les étudiants en médecine de l'UCD ont également demandé à leur université de prendre ses responsabilités, soulignant l'importance du discours des experts scientifiques en période de pandémie. Dolores Cahill n'enseigne plus pour le moment, au moins jusqu'à l'année prochaine.
Des plateaux de télévision à la politique en Pologne, c'est la trajectoire éclair parcourue par Szymon Hołownia. À 44 ans, ce présentateur télé et écrivain catholique est encore un novice en politique. Ce centriste libéral a bâti sa popularité sur les réseaux sociaux. Il est arrivé 3e de la présidentielle l'an dernier avec un programme assez flou. Correspondance à Varsovie de Sarah Bakaloglou.
Avant de se déclarer candidat indépendant à la présidentielle de 2020, ce catholique fervent était un écrivain et présentateur de télévision animant l'émission La Pologne a un incroyable talent. Une carrière sans aucun lien avec la politique donc, ce qui ne l'a pas empêché de faire un bon score à la présidentielle et surtout de devenir la personnalité politique auquel les Polonais font le plus confiance, selon un sondage de novembre, devant le président Duda et le premier ministre Morawiecki. Le credo de Szymon Hołownia proposait une alternative au duel classique entre le parti conservateur droit et justice au pouvoir et le principal parti d'opposition, la plateforme civique. Pour cela, il a créé récemment son parti Pologne 2050 et recrute des parlementaires. 3 députés et un sénateur l'ont déjà rejoint, parmi eux Joanna Mucha, ancienne ministre de la plateforme civique. Dans son programme, Szymon Hołownia met en avant la sécurité nationale, l'écologie, mais aussi la séparation nette de l'Église et l'État en Pologne. Un programme qui manque de clarté et de fond, dénonce en tout cas ses détracteurs, comme sur la question de l'avortement. Ce catholique, connu pour ses positions conservatrices sur le sujet, s'est dit dernièrement en faveur d'un référendum pour décider s'il fallait ou non libéraliser ce droit. Reste à voir si ce nouveau venu dans l'opposition et son parti Pologne 2050 pourront consolider leurs assises et garder cette popularité jusqu'aux élections de 2023.
Gerade in diesen Tagen müssen wir sehr viel miteinander reden, Denn das Ziel ist, dass die Union diese Bundestagswahl gewinnt.
Le rideau tombe sur l'ère Merkel. En Allemagne, au mois de septembre, la chancelière va quitter ses fonctions après 16 ans de pouvoir. Et son parti, la puissante alliance conservatrice CDU-CSU, vient de désigner son successeur. Il s'appelle Armin Laschet. C'est lui qui sera le candidat des conservateurs aux élections fédérales. C'est un modéré, comme Angela Merkel. Il va devoir se faire un nom et ranimer la flamme chez un électorat qui a soif de changement. C'est un portrait signé Vincent Souriau.
Dès qu'il s'est engagé dans la bataille, les pots de banane ont fusé. Trop gentil, trop mou, trop libéral, trop modéré. Il suffisait de lire les sondages. Les sympathisants conservateurs voulaient un dur et Armin Laschet n'avait pas les tripes pour briguer le poste de chancelier. Sauf que ce n'est pas l'opinion qui fait l'élection, c'est le comité directeur de la CDU qui a le dernier mot. Et Laschet s'est mis les caciques de son parti dans la poche grâce justement à son profil très consensuel, souligne la chercheuse Isabelle Bourgeois qui dirige le centre de réflexion Tandem Europe.
Il n'est pas nouveau en politique, loin de là. C'est le chef de gouvernement du plus grand land allemand, la Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est quasi l'équivalent des Pays-Bas en poids économique. Et ce qui est le plus important, il a fait la preuve au fil de sa vie professionnelle de politique de sa capacité à créer des compromis. Or, ce qui se profile à l'horizon pour les élections du Bundestag, c'est une coalition avec au moins deux, voire trois partis. Vous auriez la CDU, plus les Verts, plus le FDP, les libéraux. Laschet est parfaitement capable de gérer ça. En fait, il ressemble à Angela Merkel.
On l'a beaucoup entendu, cette comparaison. Choisir Laschet, ce serait faire du vieux avec du neuf. Ce petit homme rond à lunettes, fervent catholique et père de trois enfants, ne serait qu'une réplique bon marché de la chancelière sortante. Alors, Angela Merkel, Armin Laschet, même combat. Pas du tout, répond l'eurodéputé allemand Michael Galler. Oui, ils partagent les mêmes idéaux, mais ils ne sont pas faits du même bois.
Angela Merkel n'avait pas une socialisation politique naturelle. Elle est entrée à 35 ans avec la chute du mur et elle est arrivée de zéro, pas de parti, pas de formation politique. Elle a commencé au niveau fédéral et européen. Armin, c'est vraiment l'opposé. Il est très enraciné dans le parti. Les conseillers de Merkel, c'était toujours des technocrates. Et avec Armin, c'était des amis du parti, des gens qui regardaient ça politiquement et pas administrativement. C'est, à mon avis, la grande différence entre Merkel et Laschet.
La méthode Laschet va devoir faire ses preuves très vite. D'ici les élections au mois de septembre, il faut que l'alliance CDU-CSU remobilise ses troupes et rattrape par le col l'électorat conservateur qui s'est détourné d'Angela Merkel. Une classe aisée, jeune, urbaine, prête à se laisser séduire par les Verts allemands. Sur ce thème, Armin Laschet et Michael Galler ont déjà préparé leur fiche technique.
On va attaquer les Verts dans leurs illusions. On va réduire le CO2 à 55% jusqu'à 2030. Ça va, on va le soutenir, mais ce sont les Verts qui demandent maintenant encore plus et qui vont par cela risquer la base industrielle allemande. On dit Verbotspartei, le parti de prohibition, parti d'interdiction. Donc on va dire aux gens, voilà, c'est bien de s'occuper de l'environnement, mais il ne faut pas exagérer.
Armin Laschet a été désigné pour ça, revenir aux fondamentaux de la démocratie chrétienne, émoussé par des années de coalition avec les sociodémocrates. S'il parvient à retrouver le centrisme historique de la CDU, il a de fortes chances de se glisser dans le costume de chancelier.
L'Allemagne politique encore, mais celle d'il y a 100 ans, avec cette histoire du spartakisme de Gilbert Badia, réédité par Ossium. Pour tout savoir sur Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg et l'enjeu de ce mouvement révolutionnaire, Accent d'Europe reçoit l'historien Nicolas Offenstadt qui a préfacé la réédition de ce livre. Bonjour Nicolas Offenstadt.
Bonjour.
Pourquoi est-ce qu'on parle encore du spartakisme? Pourquoi est-ce qu'on réédite un livre sur le spartakisme aujourd'hui?
Ben, à vrai dire, pour beaucoup de raisons. Le spartakisme, c'est beaucoup de choses. Ça incarne d'abord l'idéal révolutionnaire, puisque parmi les révolutionnaires du XXe siècle, les spartakistes sont sans doute ceux qui étaient à la fois les plus intransigeants, les plus engagés dans la lutte aussi, parmi d'autres bien sûr, mais quand même très engagés dans la lutte. Donc ils incarnent en quelque sorte l'idéal révolutionnaire marxiste du XXe siècle. Et puis il y a une raison plus triste, ça on pourrait dire que c'est la raison positive, que ça fait réfléchir à ce que c'est qu'une révolution, les conditions d'une révolution, c'est qu'ils ont été assassinés, en tous les cas les leaders ont été assassinés dans des conditions particulièrement dures, en 1919, en pleine révolution allemande. Et donc du coup, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont aussi des figures martyrs de l'histoire allemande, avec tout ce que ça représente quand on sait aussi ce qui s'est passé après, puisque l'esprit qui a pu participer à leur assassinat a été souvent associé à ce que seront les nazis en 1933. Donc il y a aussi cette auréole du martyr. Et puis peut-être aussi la multiplicité des textes de Rosa Luxembourg et des spartakistes a fait qu'ils ont été un héritage commun finalement de toute une partie de la gauche, aussi bien communistes, trotskistes, anarchistes, conseillistes. Donc la richesse intellectuelle aussi de leur production fait que c'est un héritage très partagé.
Ce livre, c'est une réédition donc d'un livre qui a été écrit par Gilbert Badia, un homme qui symbolise des relations entre la France et l'Allemagne de l'Est, entre la RDA et toute l'importance historique qu'il a pu avoir.
Oui, Gilbert Badia, c'est un personnage très passionnant. C'est effectivement un grand passeur entre la France et l'Allemagne pendant tout le second XXe siècle ou presque, parce qu'il a fait beaucoup de chantiers franco-allemands. Et comme c'était un militant communiste engagé, il a aussi beaucoup voulu développer les relations entre la France et l'Allemagne communiste d'alors, la République démocratique allemande. Et d'ailleurs, il était très reconnu aussi dans ce pays-là. Et c'est intéressant pour son travail sur les Spartakistes parce que beaucoup d'archives de cette histoire, des luttes révolutionnaires de la Grande Guerre, de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et d'autres, étaient détenus à Berlin-Est, étaient détenus à Potsdam. Et donc, du coup, le fait qu'il soit proche de la RDA lui a permis d'avoir accès à tout un ensemble de documents qui fait que son livre est encore tout à fait à jour par bien des côtés aujourd'hui et encore très riche. Et plus encore, il a même rencontré des témoins à l'époque, qui avait connu Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, ou en tous les cas, qui avait connu les luttes de l'époque. Donc, vous voyez, c'est un livre qui est nourri aussi de quelqu'un qui est un historien, un germaniste, et qui était finalement, en quelque sorte, très proche des milieux qui avaient prolongé, pour une part, le combat de Luxembourg et Liebknecht. Et du coup, il nous emmène, en quelque sorte, aussi dans l'histoire des Spartakistes. Parce qu'il faut quand même l'imaginer, c'est aussi une histoire dramatique. C'est une minorité de militants de gauche qui, en pleine guerre, alors que tout le monde est plus ou moins, malgré tout, soit obligé de faire la guerre, soit engagé dans l'Union sacrée, et qui disent non. Et dire non quand on est une petite minorité, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile, surtout quand il y a une pression globale, à la fois de l'opinion et des gouvernements. Et c'est aussi cette histoire qui nous raconte, c'est-à-dire comment, finalement, on peut dire non à la guerre, comment est-ce qu'on arrive à créer une minorité active pour essayer de gagner de plus en plus de gens à sa cause. Donc, il y a un côté aussi assez passionnant dans ce récit. Comment cette toute petite minorité, vous savez, au début, ils sont que quelques-uns à vouloir refuser les crédits de guerre. Et puis, avec l'horreur de la guerre, les difficultés, les gens qui vivent à la fois à l'arrière et dans les tranchées, des choses extrêmement terribles, beaucoup de gens commencent à regarder ce que disent les spartakistes. Parce que le non à la guerre en 14, il n'y a pas beaucoup de monde, mais en 16-17, quand il y a déjà eu des millions de morts, quand les gens n'en peuvent plus, on commence à écouter beaucoup plus la parole de Karl Liebknecht. Il y a des soldats dans les tranchées qui disent leur admiration pour ces spartakistes qui résistent. Donc, vous voyez, il y a aussi une dimension épique. C'est l'histoire de la résistance à la guerre, c'est l'histoire de la guerre de 14 à travers cette minorité.
Et il y a ce personnage historique de Rosa Luxembourg qui est restée, elle, une icône pour tous les Allemands.
Oui, Rosa Luxembourg, c'est une icône pour des tas de raisons. C'est une militante, c'est une militante de terrain, c'est une intellectuelle, une théoricienne qui débat avec Lénine. C'est une femme aussi qui doit exister en tant que femme dans un milieu, évidemment, où il y a des militantes, mais où il y a aussi, évidemment, beaucoup d'hommes qui dirigent. Donc, il y a aussi cette dimension féminine. C'est une polémiste, c'est une journaliste. C'est quelqu'un qui fait énormément de choses à la fois et qui les fait avec beaucoup d'intransigeance. On est frappé à la fois par sa verve, par son caractère offensif, par son intransigeance. C'est quand même une prose très, très forte aussi.
Merci Nicolas Offenstadt. Le spartakisme de Gilbert Badia, réédité chez Ossium. Accent d'Europe à la réalisation, Jérémy Besset. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.
Il est 13h30 à Paris, 11h30.